Europe Soir, le 18-20, Julien Buch.
18h32, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
L'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et Pascal Paugam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Ravi de vous retrouver Pascal.
Bonsoir Julien.
Alors on va parler dans quelques secondes des vaccins. Avant cela, je voudrais qu'on s'intéresse brièvement à la situation en Russie. Ce qui se passe là-bas est intéressant et se durcit assez sérieusement avec l'Occident. Les condamnations se multiplient après la condamnation en justice d'Alexei Navalny à 3 ans et demi de prison. Poutine défie l'Occident en quelque sorte. Et la France hausse sérieusement le ton à l'image ce matin, ce même micro de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.
Il y a une dérive autoritaire manifeste, constatant que la population russe aujourd'hui exprime son mécontentement. Donc c'est au président Poutine de prendre les initiatives nécessaires. Mais en même temps, nous voulons garder un lien de dialogue avec la Russie qui soit ferme, mais qui soit réel, parce que la Russie est notre voisin.
Que peut faire la France, Jean Garrigue? Est-ce que ça peut modifier, interférer nos relations avec la Russie à l'heure, en plus, où on va négocier avec eux des commandes de vaccins?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose, à vrai dire. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine défie non seulement la France, mais l'Union européenne, depuis la guerre de Crimée, sur la question du nucléaire iranien, sur beaucoup de questions. Poutine suit sa route. On a vu poindre le.
Mais ce qui change quand même, c'est que le Kremlin n'essaye même plus de faire illusion.
Oui. Il y a un durcissement, mais peut-être. Alors, ce durcissement. En fait, il peut être analysé de deux manières. Il peut être l'aveu d'une faiblesse intérieure et la nécessité de se radicaliser par rapport à une opposition qui a trouvé en quelque sorte son fer de lance qui serait Navalny. Mais ça peut être aussi une manière de se positionner justement en position de force par rapport à l'Europe. Et les moyens de pression existent. On parlait, je crois que c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes qui imaginait qu'on pouvait faire pression sur l'affaire du gazoduc.
Oui.
Sauf que Angela Merkel, de son côté, ne semble pas du tout disposée à exercer cette pression. Reste éventuellement la question de la réduction des armements nucléaires, ou plutôt de ce qu'on appelait les accords START, c'est-à-dire continuer la désescalade des armements. Je sais que Joe Biden a lancé cette proposition de prolonger de 5 ans cette désescalade de l'armement. Est-ce qu'on peut faire pression dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut faire pression sur le fameux vaccin Sputnik V qui pourrait être une bonne opération commerciale pour les Russes.
On se moquait au début, puis on s'aperçoit qu'il est sacrément efficace. Ouais. Catherine, la même question. Est-ce que tout ça, c'est du blabla diplomatique ou est-ce que ça peut fondamentalement changer nos relations avec la Russie?
Moi, je crois que Navalny est un gros caillou dans la chaussure de Poutine. Parce que d'abord, c'est la première fois que des enquêtes, et avec tous les moyens actuels, des investigations, des journalistes et tout ça, eh bien, on a révélé qui est le vrai Poutine aux yeux des Russes. C'est-à-dire que jusqu'ici, il avait l'image du sauveur qui ne pense qu'à la Russie, de l'homme qui était très fort, qui se montrait toujours, qui montrait ses muscles, qui faisait du sport et tout ça.
C'est vrai.
Puis on a découvert que d'abord, c'était c'était un homme corrompu, qui avait une vie privée, des maîtresses, enfin tout ce que... et qui vivait à grande guide, alors que le PIB... par habitant des Russes est plus faible que celui des Portugais. Vous voyez, donc je pense que son image est très altérée. Bon, mais est-ce que les Européens vont pouvoir peser sur lui et en quel domaine? Je vous le demande. Vous savez,
La Russie est un partenaire important quand même.
La Russie est un partenaire important. Alors bon, quand il y avait eu l'Ukraine, les Européens avaient pesé sur la France pour qu'elle renonce à vendre les navires Mistral à la Russie.
Oui.
Et bien, la France avait cédé et les avait vendus aux Européens. Mais là, il y a une pression des pays baltes, des pays de l'Est, pour que l'Allemagne arrête le Nord Stream, qui est
le projet de gazoduc.
Le gazoduc, mais là, il n'en est pas question parce qu'elle en a besoin pour sa politique énergétique ou ça. Qu'il risque, Poutine? Mais rien.
Oui.
Mais rien.
Et vous avez raison de dire que c'est le caillou dans la chaussure de Poutine. Sauf que Pascal Paugam, pour ceux qui connaissent un peu la Russie, pour l'homme de la rue, pour l'homme de la campagne, il est encore très très populaire, Vladimir Poutine. Vu d'Occident, évidemment, on a l'impression qu'il est détesté de tous les Russes, mais c'est pas ce qui se passe dans le pays.
Ça n'est pas le cas. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il est. Si on compare avec la situation de 2014, c'est vrai qu'il donne encore moins le change qu'en 2014. Il a l'air assez intouchable. Et il a raison de le penser, parce que si on se réfère à ce précédent des sanctions prises en réponse à l'annexion de la Crimée il y a 6 ans, si on fait le bilan de ces sanctions, quelle a été leur efficacité? Aucune, franchement aucune. Je dirais même qu'elles ont été contre-productives du point de vue européen, puisqu'elles ont contribué sur certains segments d'activité, oui, à renforcer la position russe.
Et, vous diriez que Vladimir Poutine est en train de se radicaliser par rapport à l'Occident, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, il essaye même plus de faire illusion, il semble de plus en plus hermétique et indifférent aux critiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs.
Je ne parlerai pas de radicalisation, il fait ce qu'il a toujours fait, il est serein, il avance, tel un paquebot, et
il élimine ses opposants, et il a autour de lui des conseillers qui sont tous des anciens du KGB, et qui croient qu'ils agissent comme des temps anciens, où il y a en toute impunité, l'avocat de Kolosovski, voilà, le milliardaire, comme par hasard, comme il avait dévoilé des dossiers, on l'a retrouvé mort dans sa cellule.
Voilà,
enfin,
on assume.
Ah, mais concrètement,
un pays qui enferme ses opposants, qui muselle l'opposition,
qui les empoisonne.
Ce qui se passe entre Poutine et l'Union européenne me fait un peu penser, toute proportion gardée, à ce qu'était l'attitude de la Société des Nations dans les années 1920-1930 face à la montée en puissance d'Hitler et Mussolini. C'est-à-dire qu'il y a des effets de manche, il y a des moments aussi de rapprochement. Ça pourrait se comparer aussi à la période de la guerre froide, parce que quelque part, c'est une sorte de guerre froide. Mais malgré tout, globalement, Poutine reste populaire en Russie, j'allais dire en Union soviétique. Il reste populaire en Russie et il reste beaucoup plus populaire que Navalny. C'est ça le véritable rapport.
Est-ce qu'il menace la paix entre les nations ? Est-ce que demain, on pourrait arriver à une forme de conflit, pas forcément armé, mais une forme de conflit avec la Russie ?
Non, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est la guerre froide. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au moment où la tension pourrait dégénérer.
Catherine.
Oui. Et moi, je trouve qu'en ce moment, vous voyez, la Russie prend sa revanche avec cette affaire des vaccins. Parce que vraiment, jusqu'ici, on disait, vous savez, quand on envoyait des chefs d'État qui allaient se faire soigner en Russie, ils revenaient tous les pieds devant. On disait vraiment, il y a un système de santé soviétique épouvantable. Et puis là, ils sortent un vaccin.
C'est du sérieux, ce vaccin. Vous avez vu, dans la revue The Lancet, les scientifiques disent qu'il est efficace à plus de 91%.
Et oui, parce que les
Russes...
Alors,
ils ont un peu grillé les étapes. Oui. Ils n'ont pas
peut-être
été transparents sur les
tests,
modalités.
Mais... ils ont été peut-être un peu vite.
Mais
voyez,
ça marche.
Hier, dans un journal, dans une télévision suisse, l'ambassadeur de Suisse à Moscou disait que toute l'ambassade s'était fait vacciner par le vaccin Sputnik. Il faisait, vous voyez, une grosse publicité sur ce vaccin. Alors là, comme les Russes voient que c'est l'Europe qui manque de vaccins, ils font une commande, ils veulent obtenir l'homologation. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Parce qu'il faudrait qu'ils soient très transparents. Eh bien, on n'en est pas là.
Mais vous avez vu qu'un laboratoire allemand a déjà pris contact avec les Russes ou inversement,
je ne sais pas dans quel sens ça se passe.
C'est la grande force de Poutine.
Et la Hongrie, qui a fait ses commandes en direct, Orban est un ami de Poutine, a déjà reçu ses premières doses. Vous avez fait un grand dossier cette semaine dans l'Express qui vient de sortir. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Pascal Pogam, qui sort demain. J'ai pu le voir sur Internet, j'ai pu voir la couverture qui est absolument passionnant. C'est du solide quand même, ce vaccin russe.
C'est du solide, c'est surtout avec un petit peu de cynisme, on s'aperçoit que toutes les grandes déclarations sur la fragilité des procédures d'agrément, les procédures d'autorisation de mise sur le marché concernant le vaccin russe et les vaccins chinois, qui eux aussi commencent à être distribués en Europe via la Hongrie ou via la Serbie, on s'aperçoit que le principe de réalité est plus fort que tout et qu'aujourd'hui, on a un besoin criant
de vaccins. Mais ça peut être un outil diplomatique de Poutine, ce vaccin.
C'est la diplomatie du vaccin dont on a parlé à propos de Pékin.
Donc
il peut dire,
je vous donne 100 millions de doses, je vous donne 50 millions de doses, mais vous arrêtez de m'embêter avec vos opposants.
Vous plus de Navalny, ça c'est clairement...
C'est bien pour ça qu'ils l'ont appelé Spoutnik. Je pense que le choix de l'intituler Spoutnik... renvoie à cette suprématie alors momentanée mais qu'avaient exercé les Russes à l'époque sur la course à l'espace, et ça veut dire aussi que c'est relancer comme ça le prestige de la recherche russe dans le monde, et c'est une arme géopolitique, c'est une arme géostratégique, c'est une arme économique, et justement dans le conflit là autour de Navalny, je suis sûr que c'est quelque chose qui va peser, ça c'est vraiment quelque chose qui va peser.
Catherine.
Et puis c'est aussi se mettre entre leurs mains, je veux dire, parce qu'après tout ils disent on est fâchés, on vous donne plus de vaccins. Vous voyez, ils peuvent jouer. Donc, c'est un jeu politique subtil. Parce que moi, je crois qu'en ce moment, Poutine, les Européens, je crois qu'ils s'en moquent un peu. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir où il en est avec l'administration, la nouvelle administration américaine, qui lui est très hostile. Oui. Et là, il a besoin de...
Et puis, il a déplacé sa zone d'influence de l'autre côté de la planète, vers l'Asie. 18h42, on marque une pause. On va parler justement des vaccins et de la promesse d'Emmanuel Macron de vacciner l'ensemble de la population d'ici à l'été. Alors, est-ce possible ? On en parle, à tout de suite.